Chapitre 11. La nourriture du dragon. À la mi-été de cette dernière année, la situation des six duchés était presque désespérée. Les pirates, qui étaient si longtemps restés à l'écart du château de Castelserre, se mirent soudain à en faire le siège. Ils s'étaient emparés l'hiver précédent de l'île de l'Andouillé et de ses tours de guet. Il y avait beau temps que Forges, premier village victime du fléau auquel il avait donné son nom, était pour eux une halte de ravitaillement en eau douce. On avait parlé un moment de navires outriliens mouillant au large de l'île du Canevas, parmi lesquels, selon plusieurs témoignages, l'insaisissable bateau blanc. Aussi, pendant la plus grande partie du printemps, nulle embarcation n'était entrée dans le port de Serre, ni n'en était sortie. Et cette asphyxie des échanges commerciaux s'était fait sentir non seulement en Serre, mais dans tous les villages à vocation marchande des rives de la Serre, de l'Ours et de l'Avin. Du coup, les pirates rouges avaient acquis une réalité tangible aux yeux des négociants et des seigneurs de Bauges et de Labourg. Puis, au plus chaud de l'été, les pirates avaient pénétré dans Bourg de Castelserre. Ils étaient arrivés en pleine nuit, après plusieurs semaines où ils s'étaient tenus trompeusement tranquilles. Les habitants se défendirent avec l'acharnement de gens acculés, mais sans le sou, ils étaient affaiblis par la faim. Presque aucun bâtiment de bois n'échappa aux flammes, et on estime qu'un quart seulement de la population de la ville parvint à s'enfuir pour gravir les pentes escarpées qui menaient au château de Castelserre. Le seigneur Briand avait tenté de refortifier et d'approvisionner la citadelle, mais des semaines sans ravitaillement avaient prélevé leur tribu, et, si les puits profonds de Castelserre assuraient abondance d'eau douce, les réserves de vivres étaient quasi épuisées. Depuis des décennies, des catapultes et d'autres engins de guerre étaient disposés de façon à défendre l'embouchure de la Serre. Mais le seigneur Briand s'en servit pour protéger le château de Castelserre lui-même. Ainsi, sans plus rien pour les arrêter, les navires des pirates rouges s'engagèrent sur le fleuve, le remontèrent et portèrent les combats et les forgisations jusqu'au plus profond des six duchés, tel un poison qui suit une veine jusqu'au cœur. Alors que les pirates menaçaient Guy de Négos, les seigneurs de Bauges et de Labourg découvrirent qu'une majorité des armées des six duchés avait été envoyée loin à l'intérieur, à Lac-Bleu et au-delà, jusqu'aux frontières même du royaume des montagnes. Ces nobles s'aperçurent à cette occasion qu'il leur restait uniquement leur propre garde pour les protéger de la mort et de la destruction. J'émergeais du pilier au milieu de mes compagnons éperdus, et tout à coup, un loup me heurta en pleine poitrine, me faisant tomber en arrière, si bien que Vérité, lorsqu'il apparut à son tour, faillit trébucher sur moi.
J'ai réussi à me faire comprendre d'elle. Je lui ai dit que tu étais en danger, et elle lui a demandé d'aller te chercher. J'ai réussi à me faire comprendre d'elle. J'ai réussi à me faire comprendre d'elle.
Œil de Nuit était comme un chiot déchaîné. Il me poussa le menton du museau, me mordilla le nez, puis se jeta au sol près de moi, la moitié du corps sur mon ventre.
« Il a ébranlé un dragon, pas au point de le réveiller, mais j'en ai senti un frémir. Nous allons peut-être pouvoir tous les tirer du sommeil !»
Dans un grand éclat de rire, Vérité cria la nouvelle, tout en nous enjambant calmement, le loup et moi. D'un geste majestueux, il brandit son épée chatoyante comme pour défier la lune. Incapable de comprendre de quoi il parlait, je me redressais sur mon séant et dévisageais les gens qui m'entouraient. Le fou, Blême, paraissait épuisé. Kétriken, reflet comme toujours de son roi, souriait de son exultation. Astéri observait le groupe que nous formions avec des yeux avides de ménestrel et mémorisait tous les détails de la scène. Quant à Caudron, les mains et les bras argentés jusqu'au coude, elle s'agenouilla près de moi avec précaution.
« Allez-vous bien, Fitz Chevalerie ?»
Je gardais le regard fixé sur ses mains et ses avant-bras gantés de magie. « Qu'avez-vous fait ?» lui demandai-je.
« Ce qu'il fallait, c'est tout. Vérité m'a emmené au bord du fleuve, dans la cité. Désormais, notre travail avancera plus vite. Et vous, Que vous est-il arrivé ?
Sans répondre, je m'adressai à Vérité furieux.
Vous vous êtes débarrassé de moi pour que je ne puisse pas vous suivre. Vous saviez que j'étais incapable de réveiller les dragons, mais vous vouliez m'écarter.
Je ne pouvais pas cacher l'indignation et le sentiment de trahison que je ressentais. Vérité me répondit par un de ces sourires d'autrefois dont tout remords était absent.
Nous nous connaissons bien, toi et moi, n'est-ce pas ? Fit-il en guise d'excuse.
Puis son sourire s'agrandit.
C'est vrai. Je t'ai envoyé courir après la lune. Mais c'est moi qui me suis retrouvé comme la lune, car tu as réussi. Tu en as réveillé un, ou du moins, tu l'as fait s'agiter.
Je fis non de la tête.
Mais si. Tu as sûrement senti cet ondoiement de l'art juste avant que je te rejoigne. Comment t'y es-tu pris ? Qu'as-tu fait pour le ranimer ?
Un homme s'est tué sur les défenses du sanglier de pierre, répondis-je sans prendre de gants. C'est peut-être ça qui réveille ces dragons, la mort. Je ne puis exprimer à quel point j'étais blessé. Il avait pris ce qui me revenait pour en faire cadeau à Caudron. Pourtant, c'était à moi qu'il devait accorder cette intimité de l'art, et à nul autre, qui, en dehors de moi, avait parcouru tant de chemins, renoncé à tant de choses pour lui. Pourquoi me refuser de tailler ce dragon ? C'était la fin de l'art que je ressentais alors, purement et simplement. Mais je l'ignorais. À ce moment, je ne voyais que la perfection du lien qui unissait Vérité à Caudron et la fermeté avec laquelle il m'interdisait de partager ce lien. Il m'enfermait au dehors de lui, comme si j'étais royal en personne. J'avais abandonné femme et enfant et traversé les six duchés pour son service, et voilà qu'il me rejetait. Il aurait dû m'emmener, moi, au fleuve d'art et se tenir auprès de moi pendant que je faisais l'expérience de la magie pure. Jamais je ne me serais cru capable de tant de jalousie. Œil de Nuit interrompit ses cabrioles autour de Kétriken pour venir fourrer son museau sous mon bras. Je lui caressai la gorge et le serrai contre moi. Lui, au moins, il était à moi.
Elle m'a compris, répéta-t-il d'un ton inquiet. J'ai réussi à me faire comprendre d'elle et elle lui a dit qu'il devait aller te chercher.
Kétriken s'approcha de moi. J'ai eu le sentiment irrésistible que vous aviez besoin d'aide. Il a fallu que j'insiste beaucoup, mais Vérité a fini par délaisser son dragon pour se mettre en quête de vous. Êtes-vous blessé ? Je me redressai lentement en m'époustant. Dans mon amour-propre, seulement, de voir le roi me traiter comme un enfant. Il aurait pu me prévenir qu'il préférait la compagnie de Caudron. Un éclair dans les yeux de Kétriken me rappela soudain à qui je m'adressais. Mais elle cacha bien ses peines et se contenta de demander.
« Un homme est mort, dites-vous.
Pas de mon fait. Il a trébuché dans le noir et s'est éventré sur les défenses du sanglier. Mais je n'ai pas vu un seul dragon bouger d'une ligne.
« Ce n'est pas la mort, mais la vie répandue, » déclara Caudron à Vérité. « C'est peut-être ça, comme l'odeur de la viande fraîche ranime un chien aux trois quarts mort de faim. Ils sont affamés, mon roi, mais on peut encore les ramener à la vie si on trouve un moyen de les nourrir. »
Voilà des propos qui ne me plaisent pas du tout, m'exclamai-je.
Que cela nous plaise ou non, nous n'avons pas notre mot à dire, fit Vérité d'un ton las. C'est la nature des dragons. Il faut les nourrir, et c'est la vie qui les alimente. Elle doit être donnée volontairement pour en créer un, mais une fois en vol, les dragons s'emparent de ce dont ils ont besoin. Que leur a donné le roi Sagesse, selon toi, pour avoir vaincu les pirates rouges ?
Caudron pointa le doigt vers le fou d'un air de réprimande.
« Écoutez ce que nous disions, fou, et comprenez enfin pourquoi vous vous sentez si fatigué. Quand vous avez touché la fille au dragon, elle s'est liée à vous par l'art, et désormais, elle vous attire tandis que vous croyez lui rendre visite par compassion. Mais elle puisera en vous tout tout ce dont elle a besoin pour se dégager de son piège, et jusqu'à votre vie même. »
« Je ne comprends rien à ce que vous dites, ni les uns ni les autres, » déclarai-je. Puis, comme mes esprits me revenaient, je m'exclamai. « Royal a envoyé des soldats vers nous. Ils sont à quelques jours d'ici tout au plus, et ils doivent progresser à marche forcée. Les hommes qui gardaient le pilier étaient postés là pour empêcher Vérité de s'échapper. » C'est beaucoup plus tard ce soir-là que je sus ce qui s'était passé en mon absence. Caudron et Vérité s'étaient rendus au bord du fleuve d'Ar peu de temps après mon départ. Par le pilier, ils étaient arrivés dans la cité, et là, la vieille femme avait plongé ses bras dans la magie pure, tandis que Vérité renouvelait son pouvoir. Chaque fois que je voyais le miroitement des bras de Caudron, j'éprouvais une telle faim d'art, proche de la concupiscence, que je me cachais et essayais de dissimuler à Vérité. Je ne pense pas qu'il fût dupe, mais il ne me força pas à regarder en face mes appétits interdits, et pour ma part, je masquai ma jalousie sous diverses excuses. Je leur déclarai avec chaleur que c'était pure chance si je n'étais pas tombé nez à nez avec le clan dans le parc aux dragons, à quoi Vérité répondit calmement qu'il connaissait le risque et avait résolu de le courir. J'ignore exactement pourquoi, mais je me sentis encore plus froissé de le voir si peu ému par ma colère. C'est à leur retour de la cité qu'il avait trouvé le fou en train de tailler la pierre où était embourbée la femme au dragon. Il avait dégagé une des pattes et s'attaquait à l'autre. Ce n'était encore qu'un bloc de roche informe, mais le fou soutenait qu'il la sentait, intacte dans la pierre, et que la jeune femme espérait seulement voir son dragon libéré. Il tremblait d'épuisement, et Caudron l'avait envoyé aussitôt se coucher. Elle avait broyé en une fine poudre le dernier morceau d'écorce elfique, déjà plusieurs fois infusé pour lui préparer de la tisane. Pourtant, le fou demeurait là, détaché, et c'est à peine s'il s'était enquis de ce qui m'était arrivé. Je me sentis très mal à l'aise pour lui. La nouvelle de l'approche des hommes de Royal déclencha une activité générale. Après le repas, Vérité dépêcha le fou, Astérie, et le loup à l'entrée de la carrière pour y monter la garde. Je restai un moment près du feu, un chiffon imbibé d'eau froide autour de mon genou enflé et violacé. Sur le socle du dragon, Kétriken entretenait les feux pendant que Caudron et Vérité travaillaient la pierre. Astérie, en aidant la vieille femme à chercher de l'écorce elfique dans mon paquetage, avait découvert les graines de Caris qu'Imbre m'avait données. Caudron se les était appropriées et en avait concocté un breuvage stimulant qu'elle partageait avec Vérité. Leurs coups sur la roche avaient pris un rythme effrayant. Elles avaient aussi mis la main sur les graines de jupe du soleil que j'avais achetées bien longtemps auparavant comme éventuel substitut à l'écorce elfique. Avec un sourire paillard, Astérie m'avait demandé ce que je comptais en faire. Après mes explications, elle avait été prise de fou rire et avait fini par m'avouer que ces graines étaient considérées comme aphrodisiaques. Je m'étais alors rappelé les paroles de l'herboriste qui me les avait vendues et j'avais secoué la tête. Une partie de moi-même percevait l'humour de ma méprise, mais je n'arrivais pas à sourire. Après avoir passé quelque temps seul près du feu, je tendis mon esprit vers Œil de Nuit. « Comment ça va ?» Soupir. « La ménestrelle ?» Préférerait être en train de jouer de sa harpe, le sans-odeur de tailler sa statue et moi de chasser. Si un danger nous menace, il est encore très loin. Espérons qu'il y restera. Ouvre l'œil, mon ami. Je quittai le bivouac et grimpai en claudiquant sur le tas de rebuts de taille jusqu'au socle du dragon. Trois de ses pattes étaient à présent dégagées et Vérité travaillait sur la quatrième, un antérieur. Je restai un moment près de lui, immobile, mais il ne daigna même pas s'apercevoir de ma présence et continua son ouvrage sans cesser de fredonner de vieilles comptines et des chansons à boire. Je m'éloignai, passai près de Kétriken qui tisonnait ses feux d'un air morne et me dirigeai vers Caudron qui passait les mains sur la queue du dragon. Le regard lointain, elle faisait surgir les écailles, puis approfondissait les détails et ajoutait la texture. Une partie de la queue restait elle aussi dissimulée dans la pierre. Comme je m'apprêtais à m'appuyer sur le bas de l'échine de la créature pour soulager mon genou tuméfié, Caudron se redressa brusquement et siffla.
« Ne faites pas ça! Ne le touchez pas !»
Je me raidis et m'écartai. « Je l'ai déjà touché avant et je n'ai rien cassé, » répondis-je, indigné.
« C'était avant. Maintenant, il est beaucoup plus près d'être achevé. »
Elle leva les yeux vers moi. Malgré la lumière instable du feu, je vis la poussière de roche profondément incrustée dans ses traits et accrochée à ses cils. Caudron paraissait épouvantablement lasse et en même temps animé d'une énergie indomptable.
« Le dragon essaierait de s'emparer de vous, proche comme vous l'êtes de vérité, et vous n'êtes pas assez fort pour refuser. Il vous aspirerait complètement tant il est puissant, magnifiquement puissant !»
Elle prononça ces derniers mots d'une voix presque roucoulante, tout en passant à nouveau les mains sur la queue de la créature. L'espace d'un instant, je distinguais un miroitement coloré dans leur sillage.
Est-ce que quelqu'un voudra bien m'expliquer un jour ce que vous racontez ?
Lançai-je avec humeur. Elle me regarda d'un air stupéfait.
Mais je m'y efforce, et vérité aussi. Néanmoins, vous devriez savoir, tous, autant que vous êtes, à quel point parler peut être fastidieux. Nous nous donnons du mal pour vous expliquer, nous rabâchons et votre esprit ne comprend pas. Ce n'est pas votre faute, les mots ne sont pas assez grands, et il serait trop dangereux désormais de vous faire partager notre art.
Saurez-vous m'expliquer une fois que le dragon sera terminé ?
Elle me regarda dans les yeux et une sorte de pitié passa sur ses traits.
Quand le dragon sera terminé, Fitz Chevalerie, mon ami très cher, dites plutôt que lorsque Vérité et moi serons terminés, le dragon sera commencé.
Je n'y comprends rien, grondai-je, exaspéré.
Pourtant, Vérité vous l'a dit, et je l'ai répété en mettant le fou en garde. Les dragons se nourrissent de vie, une vie tout entière, donnée de plein gré. Voilà ce qui permet à un dragon de s'éveiller. Et pas une seule en général. Autrefois, quand des sages se sont rendus à Jaamp, ils se sont présentés comme un clan, un ensemble qui dépassait la somme de ses constituants, et ils ont tout donné à un dragon. Il faut emplir le dragon. Vérité et moi devons y mettre tout ce que nous sommes, le moindre élément de nos existences. C'est facile pour moi. Eda sait que j'ai vécu plus que ma part d'années, et je n'ai nul désir de continuer à vivre dans ce corps. C'est beaucoup plus difficile pour Vérité. Il abandonne son trône, sa belle épouse qu'il aime, son plaisir à travailler de ses mains. Il renonce à monter un cheval de qualité, à chasser le cerf, à marcher au milieu de son peuple. Je sens déjà tout cela dans le dragon. Le coloriage soigneux d'une carte, le contact d'une nouvelle feuille de vélin, je connais même l'odeur de ses encres à présent. Il a mis tout cela dans le dragon. C'est difficile pour lui, mais il le fait quand même, et la peine que cela lui coûte est un autre des éléments qu'il intègre dans cette créature. Elle alimentera sa fureur envers les pirates rouges lorsqu'elle s'éveillera. Il y a un seul élément qu'il refuse d'intégrer à son dragon, un seul, mais qui risque de le faire échouer.
Lequel ? Demandai-je à contre-cœur. Elle planta ses yeux dans les miens.
Vous ? Il ne veut pas vous mettre dans le dragon. Il le pourrait, vous savez, que vous soyez d'accord ou non. Il pourrait s'emparer de vous, tout simplement, et vous aspirer en lui. Mais il refuse. Il dit que vous aimez trop votre vie, et qu'il exclut de vous la prendre, que vous avez déjà dû renoncer à trop de bonheur pour un roi qui ne vous a donné que des peines et des épreuves en guise de remerciement. »
Se doutait-elle que par ces mots, elle me rendait vérité. Oui, j'en ai le sentiment. J'avais vu une grande partie de son passé lors de notre échange d'art, et je n'ignorais pas que l'expérience n'était pas à sens unique. Elle savait à quel point j'aimais mon roi, et quelle souffrance cela avait été pour moi de le retrouver si distant avec chacun. Je me relevai, bien décidé à lui parler.
« Fitz ?»
fit Caudron derrière moi. Je me retournai.
« Je voudrais vous mettre au courant de deux faits. Aussi pénibles puissent-ils vous paraître. »
Je rassemblai tout mon courage.
« Votre mère vous aimait, »
dit-elle à mi-voix.
« Vous prétendez ne pas vous souvenir d'elle, mais en réalité, vous ne lui pardonnez pas. Pourtant, elle est là, avec vous, dans vos souvenirs. C'était une montagnarde, grande et belle, et elle vous aimait. Ce n'est pas elle qui a décidé de se séparer de vous. »
À ces mots, je me sentis pris à la fois de colère et de vertige. Je repoussai le savoir qu'elle m'offrait. Je n'avais gardé aucun souvenir de la femme qui m'avait mis au monde, j'en étais sûr. J'avais fréquemment fouillé au plus profond de moi-même sans trouver trace d'elle. « Et le deuxième fait ?» demandai-je d'un ton froid. Ma colère ne suscita chez Caudron que de la compassion.
« Il est aussi grave que le premier, voire pire. Là encore, vous le connaissez déjà. Quelle tristesse! Les seuls présents que j'ai à vous faire, à vous, le catalyseur qui avait transformé ma mort vivante en vie mourante, vous les possédez déjà. Mais ils sont là, et je vous les donne donc. Vous aimerez à nouveau. Vous le savez, vous avez perdu votre fleur printanière, votre Molly de la plage avec le vent dans ses cheveux bruns et son manteau rouge. Vous êtes séparés d'elle depuis trop longtemps et vous avez tous les deux vécu trop d'événements. De plus, ce que vous aimiez, ce que vous aimiez vraiment, elle et vous, ce n'était pas l'autre. C'était cette époque de votre existence, le printemps de votre vie, la vie qui courait puissamment en vous, la guerre à votre seuil et vos corps parfaits pleins de vigueur. Revoyez ce temps-là d'un œil impartial, et vous vous rendrez compte que vous avez au moins autant de souvenirs de querelles et de larmes que d'amour et de baisers. Fitz, faites le bon choix. Laissez-la s'en aller et gardez ses souvenirs intacts. Conservez ce que vous pouvez d'elle et laissez-la conserver ce qu'elle peut du garçon audacieux et indiscipliné qu'elle a aimé. Parce que lui et cette joyeuse petite damoiselle ne sont plus que des souvenirs. » Elle secoua la tête. « Rien que des souvenirs. »
« C'est faux !» criai-je avec fureur. « Ce n'est pas vrai !» Ketriken se redressa et m'observa avec une expression de crainte et d'inquiétude. Je ne pus lui rendre son regard, grande et belle. Ma mère était grande et belle. Non, je ne me rappelais rien d'elle. Je passais devant la reine à grandes enjambées, sans prêter attention à mon genou qui m'élançait à chaque pas. Je contournais le dragon en le maudissant et en le mettant au défi de percevoir les sentiments qui m'agitaient. Arrivé près de Vérité, qui œuvrait toujours sur la patte avant gauche, je m'accroupis et déclarai dans un murmure rauque. « Caudron affirme que vous allez mourir à l'achèvement du dragon, que vous vous intégrerez tout entier en lui. C'est du moins ce que j'ai compris dans mon pauvre entendement. Dites-moi que je me trompe. » Il se redressa sur les talons et repoussa de la main les éclats de pierre qu'il venait de faire sauter. « Tu te trompes, » répondit-il avec douceur. « Veux-tu bien aller chercher ton balai pour me débarrasser de ceci ?» Je revins avec l'objet demandé. J'avais plus l'envie de le lui casser sur la tête que de l'employer normalement. Il sentait la rage qui bouillonnait en moi. Je le savais. Mais il ne m'en indiqua pas moins de nettoyer son espace de travail. J'obéis d'un coup de balai furieux.
« Eh bien !»
dit-il calmement. « Voilà une belle colère, forte, violente. Je pense que je vais la lui donner. Léger comme le frôlement d'une aile de papillon, son arme effleura. Ma fureur me fut arrachée de l'âme et partie vers « Non, ne la suis pas ». Une poussée d'art mesurée de vérité et je réintégrais brutalement mon corps. Une seconde plus tard, je me retrouvais assis sur la pierre tandis que l'univers tout entier dansait autour de moi. Je me ramassais lentement et posais le front sur mes genoux. Je me sentais abominablement mal. Ma colère avait disparu pour laisser place à un engourdissement mêlé de fatigue. « Voilà, » reprit Vérité, « tu voulais savoir. Maintenant, tu sais. Tu comprends mieux maintenant, je pense, ce que c'est d'alimenter le dragon. As-tu envie de lui donner davantage de toi-même ?» Je secouai la tête, muet. J'avais trop peur d'ouvrir la bouche. « Je ne vais pas mourir à l'achèvement du dragon, Fitz. Je vais être consumé, c'est vrai, et dans un sens tout à fait littéral, mais je continuerai à vivre sous forme de dragon. » Je réussis enfin à parler. « Et Caudron ?»« Cresserelle fera partie de moi, et sa sœur Mouette aussi, mais le dragon, ce sera moi. » Il avait repris son satané travail de taille. « Comment pouvez-vous agir ainsi ? » lançai-je d'un ton accusateur. « Comment pouvez-vous imposer ça à Ketriken ? Elle a renoncé à tout pour vous rejoindre, et vous allez l'abandonner comme ça, seule et sans enfant. » Il se pencha jusqu'à ce que son front repose contre le dragon. Il avait interrompu son clivage incessant. Au bout d'un moment, il déclara d'une voix rauque. « Tu devrais rester ici et me parler pendant que je travaille, Fitz. Dès que je crois m'être vidé de toute grande émotion, tu en réveilles une en moi. » Il leva le visage vers moi. Les larmes avaient tracé deux sillons dans la poussière grise de son visage. « Ai-je un autre choix ?» Celui d'abandonner le dragon, tout simplement, de rentrer avec nous dans les six duchés pour rallier le peuple et combattre les pirates rouges par l'art et l'épée comme avant. Peut-être, peut-être, serions-nous tous morts avant même d'arriver à Jaamp. Est-ce un meilleur dénouement pour ma reine? Non. Je la ramènerai à Castelserre. Je nettoierai les côtes du royaume et elle régnera longtemps et bien. Voilà ce que je choisis de lui donner. « Et un héritier ?» demandai-je d'un ton amer. Il haussa les épaules d'un air las et reprit son ciseau. « Tu sais ce qu'il doit en être. C'est ta fille qu'elle élèvera comme héritière. »«
Non ! Proférez encore une fois cette menace, et peu importe les risques, j'artise Burik pour qu'il puisse s'enfuir avec elle. »
« Tu ne peux pas artiser Burik, » fit Vérité d'un ton apaisant. Il semblait prendre les mesures d'un des doigts du dragon. Chevalerie a fermé l'esprit de Burik à l'art afin qu'on ne puisse pas l'employer contre lui, comme on a utilisé le fou contre toi. Encore une petite énigme résolue pour le bien que cela me faisait.
Vérité, je vous en prie, je vous en supplie, ne me faites pas ça. Mieux vaut que je me consume dans le dragon, moi aussi. Je vous donne ma vie, prenez-la, nourrissez-en le dragon. Je vous remets tout ce que vous voulez, mais promettez-moi que ma fille ne sera pas sacrifiée au trône des loin-voyants.
« Je ne peux pas te faire cette promesse, » répondit-il, un voile dans la voix.
« Si vous avez encore le moindre sentiment pour moi, » dis-je, mais il m'interrompit. « J'ai beau te le répéter.
Tu n'arrives pas à te le mettre dans la tête, hein ? J'ai des sentiments, mais je les ai placés dans le dragon. »
Je me redressai tant bien que mal et m'éloignai en boitillant. Je n'avais plus rien à lui dire. Roi ou homme, oncle ou ami, je ne savais plus qui il était. Quand je l'artisais, je me heurtais à ses murailles. Quand je tendais mon vif vers lui,
je constatais que sa vie oscillait entre la créature de pierre et lui. Et, dernièrement, elle paraissait briller plus vivement dans le dragon. Il n'y avait personne au bivouac, et le feu était presque éteint. J'y rajoutais du bois, puis m'assis à côté pour manger de la viande séchée. Il ne restait quasiment plus rien du cochon. Nous allions bientôt devoir nous remettre à chasser, ou plutôt, Œil de Nuit et Ketriken allaient bientôt devoir chasser à nouveau. Apparemment, la reine était douée pour rabattre le gibier vers le loup. La pitié que je m'inspirais commençait à perdre toute saveur, mais, à part regretter de ne pas avoir un peu d'eau de vie pour la noyer, je ne voyais pas qu'y faire. En l'absence de possibilités plus attrayantes, j'allais me coucher. Je dormis, si l'on peut appeler cela dormir. Mes rêves furent hantés de dragons et le jeu de caudron prit d'étranges significations, au point qu'un moment, j'essayais de déterminer si un caillou rouge était assez fort pour capturer Molly. Au milieu de mes songes confus et incohérents, j'émergeais fréquemment à la surface du sommeil et me retrouvais dans l'obscurité de la tente. Une fois, je tendis mon esprit vers Œil de Nuit qui rôdait près d'un petit feu, tandis qu'Astérie et le fou dormaient tour à tour. Ils avaient déplacé leur poste de garde jusqu'au sommet d'une colline où ils disposaient d'une bonne vue sur la route d'Ar, qui sinuait en contrebas. J'aurais dû aller les rejoindre, mais je roulais sur le flanc et replongeais dans mes songes. Je rêvais que je voyais les hommes de Royal arriver, non par dizaines, ni par vingtaines, mais par centaines. Soldats vêtus de brun et d'or qui envahissaient la carrière pour nous acculer aux falaises noires et nous massacrer. Le contact froid du museau du loup me réveilla au petit matin. « Tu as besoin de chasser !» me dit-il gravement, et j'acquiesçais. Comme je sortais de la tente, je vis Ketriken descendre du socle du dragon. L'aube pointait, et la lumière des feux n'était plus nécessaire. La reine pouvait enfin se reposer, mais, au-dessus d'elle, le tintement et le raclement sans fin des ciseaux continuaient. Nos regards se croisèrent, puis elle jeta un coup d'œil au loup. « Vous allez chasser ?» nous demanda-t-elle. Le loup agita lentement la queue. « Je vais prendre mon arc, » reprit-elle, et elle disparut sous la tente. Nous l'attendîmes. Elle ressortit vêtue d'un pourpoint plus propre et armée de son arc. Je refusais de lever les yeux vers la femme au dragon quand nous passâmes devant la statue. Près du pilier, j'observais. Si nous étions assez nombreux, nous devrions placer deux gardes ici et deux autres pour surveiller la route. Ketriken hocha la tête. C'est singulier. Je sais qu'ils viennent nous tuer et je ne vois guère de moyen d'échapper à ce sort. Pourtant, nous allons quand même chasser comme s'il n'y avait rien de plus important que manger.
C'est vrai, manger, c'est vivre.
Néanmoins, pour vivre, il faut manger, fit Ketriken en écho à la pensée d'Œil de Nuit. Nous ne trouvâmes pas de proie qui valût vraiment une flèche. Le loup attrapa un lapin et la reine abattit un oiseau vivement coloré. Nous finîmes par pêcher des truites à la main et à midi, nous disposâmes de plus de poissons qu'il nous en fallait, du moins pour la journée. Je les nettoyais sur la rive du ruisseau, puis je demandais à Ketriken si elle voyait un inconvénient à ce que je reste là pour faire ma toilette.
« En vérité, ce serait une bénédiction pour nous tous, » répondit-elle.
Et je souris, non de ce qu'elle me taquina, mais de ce qu'elle en eut encore le courage. Peu de temps après, je l'entendis s'asperger d'eau en amont de moi, tandis qu'Œil de Nuit somnolait sur la berge, le ventre plein d'entrailles de poisson. Comme nous passions à nouveau devant la femme au dragon pour regagner le bivouac, nous découvrîmes le fou roulé en boule près d'elle sur le socle, profondément endormi. Ketriken le réveilla et le réprimanda des nouvelles marques de ciseaux tout autour de la queue du dragon. Sans manifester aucun regret, il déclara qu'Astérie s'était portée volontaire pour monter la garde jusqu'au soir et qu'il préférerait se reposer là où nous l'avions trouvé. Nous dûmes insister pour le ramener au camp avec nous. Nous conversions entre nous en nous dirigeant vers la tente quand Ketriken nous interrompit soudain.
« Taisez-vous !»
s'écria-t-elle.
« Puis, écoutez !»
Nous nous figeâmes. Je m'attendais à demi à entendre Astérie nous lancer une mise en garde et tendis l'oreille. Mais je ne perçus que le vent dans la carrière et de lointains cris d'oiseaux.
Il me fallut un petit moment pour saisir l'importance de ce silence.
« Vérité !»
m'exclamai-je. Je fourrai nos poissons entre les mains du fou et me mis à courir. Ketreken me dépassa bientôt. Je redoutais de trouver Caudron et Vérité morts, tombés sous les coups du clan de Royal pendant notre absence. Le spectacle que je découvris était presque aussi étrange. Ils se tenaient côte à côte et contemplaient leur dragon qui brillait d'un éclat noir et miroitant comme un bon silex au soleil de l'après-midi. Il était achevé. Le détail de chaque écaille, de chaque ride, de chaque griffe était impeccable. Il surpasse tous les dragons du jardin de pierre, dis-je. J'en avais fait deux fois le tour, et à chaque pas, je m'étais émerveillé un peu plus. Le vif de vie brûlait puissamment en lui à présent, davantage qu'en Vérité ou Caudron. J'étais presque troublé de ne pas voir son souffle soulever ses flancs, de ne constater aucune agitation dans son sommeil. Je jetai un coup d'œil à Vérité, et malgré la colère qui ne m'avait pas quitté, je ne pus m'empêcher de sourire. « Il est parfait, » dis-je à mi-voix.
« J'ai échoué, »
répondit-il d'un ton désespéré. À ses côtés, Caudron hocha la tête, l'air pitoyable. Les rides de son visage s'étaient creusées. Elle accusait nettement ses 200 ans, tout comme Vérité.
« Mais il est terminé, monseigneur, » fit Ketreken. « N'était-ce pas votre but ? Terminer le dragon ?»
Vérité secoua lentement la tête.
« La sculpture est achevée, mais pas le dragon. »
Il nous regarda tous, et je sentis l'effort qu'il faisait pour obliger les mots à exprimer ce qu'il voulait dire. « J'ai mis en lui tout ce que je suis, tout, sauf le strict nécessaire, pour que mon cœur batte encore et que mes poumons s'emplissent d'air. Caudron en a fait autant. » Nous pourrions le donner aussi, mais cela ne suffirait toujours pas. Appalant, il alla s'appuyer contre le dragon et posa sa tête sur ses bras émaciés. Tout autour de lui, là où son corps touchait la pierre, une aura de couleur se mit à ondoyer sur la peau du dragon. Turquoise, avec le pourtour argenté, les écailles se mirent à briller d'un éclat incertain sous le soleil. Je perçus le flux de l'art de Vérité qui s'écoulait dans la créature. La pierre s'en imbibait comme la page boit l'encre. « Roi Vérité, » fis-je à mi-voix d'un ton d'avertissement. Avec un grognement, il s'écarta de sa création.
« N'aie crainte, Fitz, je ne lui en laisse pas prendre à l'excès. Je n'ai pas l'intention de renoncer à ma vie sans motif. »
Il leva la tête et promena son regard sur nous.
« Curieux ? » dit-il dans un murmure. « Est-on ainsi lorsqu'on s'est fait forgiser, capable de se rappeler ce qu'on ressentait naguère, mais incapable de l'éprouver encore ? Mes envies, mes peurs, mes peines, toutes sont allées dans le dragon. Je n'ai rien gardé, et pourtant, cela ne suffit pas, cela ne suffit pas.
« Monseigneur Vérité !»
Caudron parlait d'une voix fêlée, dont tout espoir s'était enfui.
« Il vous faut prendre Fitz Chevalerie. Il n'y a pas d'autre moyen. »
Ses yeux, autrefois si brillants, m'évoquèrent deux cailloux noirs et secs quand elle les tourna vers moi.
« Vous l'avez proposé, » me dit-elle. « Vous avez offert de donner votre vie. »
J'acquiesçai. « À condition qu'on laisse ma fille tranquille. » Chuchotai-je. J'inspirais longuement. Ma vie, à l'instant présent. Je n'avais rien d'autre à donner. Pas d'autre moment auquel je pouvais réellement renoncer. Mon roi, je ne cherche plus à passer de marché avec vous. S'il vous faut ma vie pour faire voler le dragon, je vous l'offre. Vérité vacilla légèrement et me dévisagea.
« À cause de toi. » J'éprouve à nouveau presque des émotions, mais... »
Accusateur, il pointa un doigt d'argent, non sur moi, mais sur Caudron, et, avec une autorité aussi inébranlable que la pierre de son dragon, il déclara. « Non, je vous l'ai déjà dit, non,
Je vous interdis de lui en reparler. »
Lentement, il tomba à genoux, puis s'assit près de son dragon.
« Fichue graine de Kari, »
fit-il à mi-voix.
« Son effet s'estompe toujours quand on en a le plus besoin. Satanée drogue. »
« Vous devriez vous reposer, » dis-je bien inutilement, car il ne pouvait rien faire d'autre. La vigueur induite par la graine de Caris prenait fin toujours brutalement, et l'on se retrouvait épuisé, comme vide. Je ne le savais que trop bien.
« Me reposer, »
dit-il d'un ton amer, la voix chevrotante.
« Oui, me reposer. Je dois être bien reposé pour recevoir les soldats de mon frère. » qui me trancheront la gorge. Le clan qui tentera de s'approprier mon dragon. Sache-le, Fitz, c'est ce qu'il cherche. Cela ne marchera pas naturellement. Dis-moi, je ne crois pas.
Ses pensées commençaient à s'égarer.
Pourtant, c'est possible,
fit-il dans un souffle presque inaudible.
Ils ont été liés à moi par l'art, autrefois. Peut-être leur suffirait-il de me tuer pour s'en emparer.
Il eut un sourire affreux.
Royal, en dragon, à ton avis, laisserait-il pierre sur pierre de Castelserre?
Derrière lui, Caudron s'était repliée sur elle-même, le front contre les genoux. Je crus qu'elle pleurait, mais quand elle s'effondra lentement de côté, son visage était détendu. Ses yeux clos. Elle était morte. Ou alors, elle dormait du sommeil qu'induit la graine de Caris. Après ce que m'avait dit Vérité, cela m'apparaissait sans grande importance. Mon roi s'allongea sur le socle nu et couvert de petits éclats de pierre et s'endormit près de son dragon. Ketriken s'assit auprès de lui, courba la tête et se mit à pleurer sans discrétion. Les sanglots déchirants qui la convulsaient auraient dû éveiller le dragon de pierre. Il n'en fut rien. Je la regardais sans bouger, sans la toucher. C'eût été inutile. Je le savais. En désespoir de cause, je m'adressai au fou. Nous devrions aller chercher des couvertures pour les installer plus confortablement.
Ah oui, bien sûr. Qu'ont de mieux à faire le prophète blanc et son catalyseur?
Il passa son bras sous le mien. Et ce contact renouvela le lien d'art qui nous unissait. Amertume. Son sang ne charriait qu'amertume. Les six duchés allaient tomber. La fin du monde était proche. Nous partîmes en quête de couverture.